Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de recevoir aujourd'hui pour la deuxième interview Catherine Tricot, architecte urbaniste. Bonjour Catherine.
Bonjour Myriam, moi aussi je suis ravie de vous revoir.
Alors bon, on a parlé en rue, on a parlé pas mal de vos projets et de toute cette belle histoire quand même de la reconstitution urbaine, la rénovation urbaine, avec quand même au fil des années, le politique qui a une part prégnante, le politique, c'est-à-dire à la fois les élus, les territoires, la collectivité au sens large. Est-ce que vous avez vu une évolution justement du politique à travers toutes ces années et dans le formatage du quartier, mais aussi peut-être les décisions?
Ah oui, ça c'est très frappant. Je pense que quand il y a une vingtaine d'années, on était à la fin, je dirais, des 30 glorieuses dans leur suite, c'est-à-dire que les bâtiments avaient été livrés, disons, dans les années 80. On était dans une ville encore relativement neuve et qui n'avait pas besoin d'être, qui évoluait par petites touches, mais pas de grands projets. Et depuis les années 2000, alors ça correspond à peu près à la période de l'ANRU, mais ce n'est pas qu'une question de l'ANRU. Mmh. On est vraiment, on a pris conscience des enjeux urbains dans leur dimension stratégique. C'est-à-dire qu'on comprend...
Économique, attractive...
Oui, c'est ça, exactement.
Et économique, surtout.
Exactement. Je pense que, par exemple, l'arrivée de Bertrand Delanoë à la ville de Paris, avec la transformation qu'il a donnée à la ville de Paris, son rayonnement, notamment autour des dimensions culturelles, par exemple, a montré que une politique culturelle pouvait rendre attractive une ville et qu'en fait, on entrait aussi dans cette période-là, dans une période où la compétition entre les territoires s'est fait ressentir.
C'est-à-dire ah oui, quoi. Très fort.
Voilà.
Sûr.
Donc les villes devaient chacune jouer leur carte. Et les élus ont compris que la carte maîtresse qu'ils avaient en main, finalement, c'était l'urbain. Ils avaient d'autres cartes. Hein. Évidemment, je viens de parler de la politique culturelle. Ils peuvent avoir ils faisaient jouer le taux, par exemple, d'imposition pour attirer les entreprises. Enfin bon, des éléments comme ça, mais qui étaient relativement à la marge. La carte majeure, c'était vraiment quelle ville ils allaient proposer, construire.
Mais c'était quand même plutôt sur le culturel.
Jusque-là, c'était voilà, ça.
C'était
tout à
ça.
Fait, c'est ça.
Le culturel et l'économie, mais à la marge.
Voilà, exactement. C'était ça, et ça reste encore présent dans les politiques des villes. On voit bien qu'il y a des festivals, des manifestations pour donner d'un nom à la ville. La ville d'Angoulême est célèbre grâce à son festival de bande dessinée, par exemple. Mais c'était véritablement des choses un peu ponctuelles. Maintenant, on a compris que la transformation de la ville était le lieu de la stratégie, c'est-à-dire le lieu de la création d'une ville attractive, désirable pour les habitants, d'abord, parce que c'est quand même eux qui vous élisent et vous font réélire,
mais
également
c'est vrai
pour les autres entreprises.
À la lueur quand même de la pandémie, on a quand même aussi réalisé que la ville, si elle n'avait pas l'attractivité de la campagne et que les espaces verts n'étaient pas en osmose avec cette ville dense et attractive, il y avait quelque part un casus belli. Presque, non ?
Ah, tout à fait. Les habitants, maintenant, sont beaucoup plus exigeants par rapport à la forme de leur ville. Mais il y a d'autres choses un peu plus ténues, par
exemple.
Plus
subtiles, bien sûr.
Oui, par exemple, j'étais très frappée il y a un an ou deux, est sortie une étude qui montrait que l'attractivité de la jeunesse était corrélée au nombre de kilomètres de pistes cyclables. C'est-à-dire que plus on a de possibilités d'avoir des modes contemporains de déplacement...
Pas des terrasses, des cafés.
Sans doute aussi, je ne dis pas qu'on va simplement... Mais une ville qui pense les modes de développement, de déplacement,
les mobilités
douces, et qui va l'organiser, c'est une ville qui... C'est certainement d'autres choses qui vont avec. En effet, les terrasses de café, c'est une ville qui va être plus végétale, c'est une ville dans laquelle il va y avoir, comme l'endroit où nous nous trouvons, c'est-à-dire des coworking, des nouvelles formes de travail. Donc, c'est une ville qui va attirer une jeunesse qui est éduquée, et qui a un rapport au travail, un rapport à la ville et un rapport au plaisir de
Alors
vivre.
Alors comment les politiques politiques, donc les politiques, hein, au sens global du terme, ont attrapé cette volonté, quelque part, de rendre la vie attractive en en faisant à la fois un cheval de bataille vraiment didactique, presque, et puis en se disant, au fond, voilà, comment je peux donner ma patte, comment je peux programmer en un mandat, deux mandats, mon impulsion sur la ville.
Ah, je crois qu'ils se sont saisis maintenant.
Incroyable.
Après une période d'apprentissage, maintenant ils connaissent les différents outils, donc le projet urbain, les modes réglementaires, leurs indications sur le style architectural. Enfin, ils vont vraiment se saisir la transformation de l'espace public. Quel type d'espace public? On vient de parler de la renaturation de la ville, des modes doux. Il y a aussi, par exemple, un enjeu qui émerge beaucoup, la mixité des espaces publics. Est-ce que les femmes vont se sentir bien dans l'espace public? La question de la lumière, etc. Enfin bref, ils vont avoir à leur
disposition... Alors ça, c'est récent. Parce qu'au début, ils ont commencé quand même par... Enfin, au début, il y a, on va dire, 10-15 ans, les élus ont commencé doucement à se faire leur propre culture de l'objet architectural. Avant de s'occuper de la ville, ils se sont quand même occupés de l'objet, du bâtiment, du logement,
plus facile.
Avec quelque part une image en tête. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez, cette espèce de théorie du post-haussmannien, du pseudo-haussmannien, du pseudo-art déco, du pseudo, etc., etc., qui fait qu'on a quand même quelque part un peu une définition fake de cette ville en carton-pâte, non? Comment fait-on pour relier ça à l'habitant?
Lors de notre dernier entretien, on s'était parlé du fait que la ville des années de la grande reconstruction était apparue comme criminogène, selon les mots de Michel Rocard. Et donc, je crois que par opposition à ça, est apparu un modèle, c'est-à-dire en fait on a attaché au mouvement moderne, à cette architecture-là, on l'a fait porter...
Stigmatisé.
On lui a fait porter tous les maux de la terre. Uh-huh. Et donc maintenant, par opposition, on va chercher à se réancrer dans la ville continue. Ça, c'est un mouvement assez profond hein, quand même, qui n'est pas que néo-haussmannien, c'est-à-dire le retour de la rue, par exemple,
des alignements.
Voilà, etc. Ça a été quand même un mouvement extrêmement profond. Moi, je crois que ce mouvement est excessif, hein, parce que je pense que la banlieue, elle est faite aussi de ces discontinuités.
Qui
Son charme et son intérêt, c'est-à-dire et sa liberté et sa créativité. Donc moi, je pense qu'il y a un modèle de la ville aujourd'hui, de la ville avec des alignements le long des trottoirs, des bâtiments, comme l'a conçu Haussmann. À mon avis, c'est un modèle qui n'a pas de raison de s'étendre.
On a quelque part l'impression, surtout en banlieue, première banlieue, première couronne parisienne, qu'il y a le long des boulevards des alignements, en espérant des boulevards apaisés, mais qui peinent à le devenir. Et puis, le pavillonnaire, et surtout, on ne touche pas au pavillonnaire, donc avec des problématiques économiques, mais feront peut-être, à la limite, une troisième interview, des problématiques économiques importantes, puisque ces populations vieillissantes dans les pavillons n'arrivent pas à, justement, économiquement, pouvoir se payer la rénovation de leur pavillon, reconstruire en fond de parcelle, etc., etc.
Parce que il y a beaucoup de choses là-dessus.
Voilà, les PLU rendent les choses difficiles. Mais on a quand même ce sentiment de dire, les boulevards doivent être denses et, je dirais, sans séquentiel, tenue, etc.
Je pense qu'il y a un rêve de la ville parisienne. Il y a un rêve de la ville parisienne. Et puis, il y a un deuxième élément qui est, je dirais, il y a une gestion. Il y a la part de la propreté, de la sécurité, de la netteté dans la ville a beaucoup monté dans les préoccupations des habitants et des élus. Mmh. Et la réponse qui est communément apportée...
C'est tout le monde aligné, c'est plus facile. C'est plus facile de faire la sécurité.
Et d'y voir clair et de comprendre ce qui se passe. Non, mais c'est assez prégnant. Je me débats avec ce problème. Notamment, par exemple, on a parlé la dernière fois, je travaille sur un des grands projets de rénovation urbaine à Saint-Denis, et dans lequel il faut arriver à trouver ce point d'équilibre pour ne pas faire du n'importe quoi dans une ville qui est dans un quartier dans lequel on ne va pas faire la tabula rasa. Donc, il va rester de l'architecture moderne au sens sites où on a des bâtiments qui sont disjoints des espaces publics. Donc, on ne va pas avoir des alignements pour les constructions neuves et des choses disjointes dans les bâtiments anciens. Parce que là, ça serait une manière... Ce qui m'importe aussi, c'est que ça serait une manière de remarquer, de ressouligner la différence entre le neuf et l'ancien, c'est-à-dire entre le social et l'accession à la propriété. Or, je crois qu'un des enjeux qui était porté par l'agence de rénovation urbaine, c'était un enjeu de mixité. Et la mixité...
vous avez l'impression qu'elle s'est perdue, que cet enjeu s'est perdu ?
Non, c'est pas qu'il s'est perdu, c'est qu'il n'a pas été réussi. Donc, on n'a pas réussi jusqu'à présent, cette question de mixité. Donc, il faut arriver à comprendre pourquoi on n'a pas réussi.
Alors,
il y a plein de raisons.
Dans un quartier comme les Francs-Moisins à Saint-Denis, sur lequel vous œuvrez depuis longtemps, et j'espère que vous aurez effectivement l'occasion de mettre en œuvre tout votre travail, cette mixité... Est-ce qu'elle va se faire ? Cette mixité, elle est aujourd'hui, je dirais, presque obligatoire. Et puis Saint-Denis est devenue attractive.
Oui, non, mais
Saint-Denis
moi, je pense
n'est plus le Saint-Denis avec les gaz, gazoducs,
oui, tout
etc.
à fait. La ville de Saint-Denis est en train de se transformer. L'arrivée des Jeux Olympiques va être quand même un booster fantastique. Et puis on est vraiment au pied du Stade de France. Donc je pense que ce quartier a des raisons de penser qu'il va se transformer et qu'il va se mixer. Mais les raisons de réussir la mixité, ce n'est pas simplement habiter côte à côte, c'est par exemple aller dans les mêmes magasins, c'est aller dans les mêmes écoles, c'est fréquenter le même parc. Enfin, je veux dire, il faut qu'on vive ensemble. Et pour réussir ce mélange, je ne dis pas qu'on habite tous ensemble dans le même de la même manière.
Non, mais c'est que les nouveaux habitants des Francs-Moisins qui auront acheté leur logement n'envoient pas leurs enfants dans des écoles parisiennes, par exemple,
qui se sentent bien là, qui se sentent pas comme étrangers dans leur quartier. C'est cet ensemble d'éléments.
On peut pas mettre tout sur les épaules de l'architecte urbaniste.
Absolument. Non, mais bien sûr.
Rassurez-moi.
Mais je pense que le fait que autour de l'ANRU, il y ait une réflexion sur le type de commerce qu'on va installer, qu'il y ait une réflexion sur la pédagogie des écoles. C'est-à-dire que véritablement que la dynamique de l'équipe pédagogique qui est dans les écoles dans ces quartiers soit associée pour que ces écoles apparaissent comme attractives aux nouvelles populations, c'est un ensemble. La réussite d'un projet de mixité, quand on arrive dans un projet, alors il y a 1800 logements, 100% social. Donc là, on va en démolir 500 et en reconstruire 800, donc on va arriver à un rapport.
Juste par rapport à cette histoire de démolition, comment allez-vous faire pour mettre en place un bilan carbone qui soit quelque part vertueux, puisque justement vous êtes en plein dans la RE 2020, dans cette idée de dire sur 1800 on en démolit 500.
Oui.
Donc, comment fait-on pour équilibrer avec les nouvelles constructions ? Comment fait-on pour se dire qu'à un moment donné, démolir, c'est pas neutre ?
Ah, mais je suis pour la démolition quand elle est liée à un projet. Je suis absolument contre. Alors moi, j'étais très opposée à l'ANRU première version qui avait un peu porté la doxa de la démolition par opposition à cette architecture, parce que je pense qu'il faut pouvoir transformer l'existant. Mais là, à Francs-Moisins, je pense qu'on a démoli de manière parcimonieuse, même si au total, c'est beaucoup. Mais c'est pour, à chaque fois, des raisons qui ont été vraiment des raisons pesées et sous-pesées. Et le bilan, ça sera de bien isoler les nouvelles constructions et de faire de bonnes nouvelles constructions.
Bon, on aura peut-être l'occasion l'année prochaine, Catherine, vous avancerez
dans
le projet.
Exactement. Dans un an. On se fera le point.
Avec plaisir. Merci, chers auditeurs. Au revoir et à bientôt.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.